messieurs. Bienvenue sur l'antenne d'Aligre FM 93.1 pour votre émission Philosophie au présent. Je remercie d'emblée Armand Gury à la technique qui nous fait l'amabilité de mettre en production cette émission aujourd'hui. Et puis je salue de loin mes petits camarades qui sont en vacances. C'est pour cela que vous m'écouterez uniquement moi-même, Nathalie Perrin à l'antenne. Et je salue Michele Saporiti et Isabelle Raviolo. Voilà. Ce sont les vacances, mais on a décidé aujourd'hui, malgré tout, de proposer une émission qui, j'espère, vous donnera envie d'aller vers cette grande philosophe qu'est Simone de Beauvoir. Alors, l'actualité de Simone de Beauvoir, et puis c'était le titre de cette émission, cette thématique. Alors, vous êtes au courant, évidemment, que Simone de Beauvoir, le deuxième sexe en tout cas, vient d'être republié aux éditions Gallimard, dans la Pléiade, plus exactement, la prestigieuse Pléiade. Alors, c'est pas tellement à cette occasion qu'on voulait vous parler de Simone de Beauvoir, mais tout simplement parce que ça a longtemps été une figure oubliée de la philosophie. Preuve en est qu'elle a mis longtemps à intégrer les programmes de philosophie. Ça fait seulement 4-5 ans qu'elle est entrée véritablement dans les autrices, comme les autrices de philosophie, comme une référence qu'il s'agit de travailler avec les élèves de terminale. Alors voilà, aujourd'hui, un parcours dans l'œuvre de Simone de Beauvoir, avec pour point final cette entrée dans cet ouvrage qui a paru en 1949 et qui se nomme « Le deuxième sexe ». Alors si il faut parler de la vie et de l'œuvre de Simone de Beauvoir, il faut faire référence à cette vie émancipatrice qu'elle a connue et qui a démarré paradoxalement, alors que ça fera écho peut-être avec le deuxième sexe, qui a démarré dans sa propre famille. Alors si on se rappelle un peu sa date de naissance, elle est née en janvier 1908, elle a une sœur cadette, Hélène, et les parents, le père était avocat, comédien amateur, mais il a fait faillite, une faillite familiale qui s'est faite aux alentours de 1914-1918. Et cette famille désargentée, bourgeoise désargentée, va avoir une influence précisément sur l'éducation de Simone de Beauvoir. Alors, reprenons un petit peu ses études. En 1913, elle entre dans le fameux cours Désir dont elle parle dans les mémoires d'une jeune fille rangée, qui est apparue en 1958. C'est un établissement catholique privé. Parisien, qui est fondé, il était rue Jacob, et qui était fondé en 1853, qui a fermé en 92. Et c'était quoi ce court désir dont elle nous parle dans les mémoires de jeune fille rangée? C'était précisément un établissement qui accueillait des filles de la haute bourgeoisie parisienne, de la maternelle au secondaire. On y enseignait à faire la révérence, à servir le thé et à s'adresser aussi bien au président de la République qu'au curé de la paroisse. Il y a une discipline très stricte, une tradition très lourde, une manière stricte de se coiffer, un embrigadement catholique pour former une bonne chrétienne. Pas plus d'une douzaine d'heures de cours, apprend-on également quand on va chercher un petit peu ce cours désir. Des études de dessin, de pastel, de tricot, de crochet. Le cours, selon Simone de Beauvoir elle-même, selon ses propres paroles, se positionnait contre les établissements laïcs où l'on forme finalement les esprits sans former les âmes. Voilà, elle raconte cela dans les mémoires de jeune fille rangée. Bon, alors en 1925, elle va étudier en lettres et en mathématiques. Elle a déjà décidé d'être écrivaine et célèbre. Pour faire plaisir malgré tout à ses parents, elle fait à la Sorbonne ses lettres et ses mathématiques, parce que ses parents considéraient que c'était quand même un peu mieux, notamment en mathématiques, pour pouvoir faire polytechnique. Alors, elle fait sa philosophie en 1926 à la Sorbonne, elle se décide et elle passe en 1928 l'agrégation de philosophie. Elle va rencontrer Sartre lors d'une préparation à l'oral. Elle est reçue seconde, c'est connu, derrière Sartre, qui pour la seconde fois passait lui aussi l'agrégation et qui avait été reçu premier cette fois-là. Voilà. Alors, c'est assez exceptionnel, hein, cette agrégation 1928 de Simone de Beauvoir, parce que effectivement, elle n'était pas normalienne. Et pour une femme, voilà, ça reste quelque chose d'assez marquant. Alors, je reviens un petit peu, ce premier départ hein, de la biographie de Simone de Beauvoir, et je reviens un petit peu à ce que... à cette famille désargentée et à ce père qui disait finalement à ses deux filles, et notamment à Simone, « Tu as un cerveau d'homme, donc tu ne te marieras pas, tu devras travailler. Hein. » Donc cette, finalement, cette famille désargentée va provoquer la chose suivante, c'est que le père de Simone de Beauvoir et de sa sœur cadette Hélène va les pousser à faire des études et à devenir finalement autonomes et émancipée, hein, ce qu'elle dira plus tard, qu'elle n'a jamais eu à subir, ce qu'elle va décrire pourtant comme étant la condition féminine, notamment dans le deuxième sexe. Alors, comme je vois que le temps file, je vous propose d'écouter un premier extrait, puisque cette émission sera entrecoupée de la voix de Simone de Beauvoir. Alors, c'est un extrait tiré de 1961 à la RTBF, lorsque Simone de Beauvoir faisait des conférences à Bruxelles. Voilà, et elle parle notamment après la sortie de son ouvrage « La force de l'âge » qui est paru en 1960, et ce premier extrait est donc de 1961.
Eh bien, je m'en suis expliqué précisément dans le livre auquel vous faites allusion. Il est certain que j'ai vécu pendant au moins une dizaine d'années, de 20 à 30 ans, dans une assez grande indifférence à tous les événements qui m'entouraient, d'une manière que j'appellerais d'anarchiste de gauche, c'est-à-dire que j'avais certainement une quantité d'idées, de tendances qui me portaient vers ou les peuples ou les classes opprimées, mais enfin, ça ne s'incarnait dans aucune action et je n'avais pas l'impression que j'avais à l'incarner. Là-dessus, il y a eu d'abord la guerre d'Espagne qui m'a fait mesurer que mon impuissance était quelque chose de douloureux parce que j'avais des amis espagnols qui, quand il revenait en France en permission, qui se battait là-bas, disait « salaud de français ». Et ça me gênait parce que je me sentais malgré tout compromise. Et puis alors, surtout, ce qui a eu de décisif pour moi, ça a été la guerre, ça a été l'occupation. Ça a été alors la conscience brutale que j'avais vécue dans une espèce de rêve et que la réalité, soudain, et l'histoire fondaient sur moi sans que j'aie compris ce qui allait m'arriver. Et j'ai compris à partir de ce moment-là qu'il fallait que j'essaie précisément de suivre les événements, non seulement de les suivre, mais de participer le plus possible et de m'y engager. Et ça a été, enfin ça s'est raconté tout au long, ça n'a pas été exactement une crise, mais ni même non plus une évolution, parce que ça s'est fait à la fois brutalement et d'une manière lente, puisque l'occupation, cette expérience a duré 4 ans. Et quand je suis sortie de là, évidemment, 44-45, il n'était plus question de revenir à l'ancienne insouciance.
Cette insouciance, elle a été provoquée certainement par quelque chose. À votre avis, est-ce que l'éducation, que je qualifierais de bourgeoise, est suffisamment mystifiante pour que chacun ait ce pas à franchir de l'âge métaphysique à la force de l'âge ?
C'est aussi une question d'époque, je crois, parce que quand j'ai relu précisément pour écrire ce livre un ensemble de journaux, de revues, de livres qui paraissaient pendant ce temps-là et dont je me nourrissais entre 30 et 40, eh bien j'ai été stupéfaite du peu de place, en gros, que tient la politique précisément chez les écrivains et chez les gens de culture d'une manière générale. Je crois que presque toute mon époque, à de très rares exceptions, ne s'est pas engagée, n'était pas politisée, a commencé à se politiser vers 36 seulement, mais pas dans les années qui ont été celles de ma première jeunesse, enfin entre 29 et, 30 et 40, enfin, les 36.
Voilà, alors vous venez d'écouter Simone de Beauvoir, vous êtes bien dans Philosophie au présent sur Aligre FM. 1961, je disais, elle fait des conférences à Bruxelles, et puis elle donne une interview pour la RTBF. Elle évoque La force de l'âge, 1960, cet ouvrage qui est le deuxième tome de l'œuvre autobiographique, pardon, après Les mémoires d'une jeune fille rangée, dont je vous parlais, 1958, et La force de l'âge sera suivie de La force des choses. Alors, Simone de Beauvoir fait des études brillantes, hein. Elle n'est absolument pas déterminée à être une femme classique telle qu'on peut la rencontrer dans son milieu bourgeois, aidée en cela peut-être à une famille désargentée et à un père qui la pousse à faire des études et à être autonome. Alors dans les années 30, 36, 32, 36, Simone de Beauvoir commence à enseigner son histoire d'amour avec Jean-Paul Sartre a commencé, j'y reviens à l'instant. On passe rapidement, elle a eu aussi un poste au Maroc. En 42, elle est exclue de l'université sur fausse dénonciation. Elle a été réintégrée à la Libération, mais elle va abandonner l'enseignement cette même année de 1942. Alors, ce qui nous intéresse là, et même si on ne va pas s'attarder, c'est effectivement cette rencontre de Simone de Beauvoir et de Jean-Paul Sartre. Il est vrai que quand on a l'habitude de lire l'œuvre de Beauvoir, on a l'impression que son œuvre n'est pas dissociable de Jean-Paul Sartre, ce qui est faux, évidemment. Elle a une œuvre dissociable de Jean-Paul Sartre, même si elle est existentialiste, qu'elle a partagé l'existentialisme athée de Sartre et ô combien défendu. Cela dit, Simone de Beauvoir a une œuvre, mais il est impossible de parler d'elle sans évoquer son rapport avec Sartre, et qu'elle s'est employée elle-même, d'ailleurs, à décrire et à ériger dans sa propre œuvre. Elle le raconte dans La force de l'âge que je vous citais à l'instant, et elle raconte aussi cette invention par Sartre de cette relation de couple originale qui va être fondée sur la nécessité, c'est-à-dire sur cette relation qui ne peut pas être autrement ou qui ne doit pas être autrement que fondée sur, on pourrait dire, l'authenticité des rapports, l'inverse du couple bourgeois marié, et qui est fondée sur la liberté et la transparence des rapports. Donc va commencer entre Simone de Beauvoir et Sartre une vie commune, alors qui sera toujours sans cohabitation, mais une vie commune intellectuelle, collaborative, avec un dialogue qui ne s'est finalement jamais arrêté, un dialogue qui commence en 1929 et qui s'est poursuivi jusqu'à la mort de Sartre. Et les œuvres des deux écrivains se complètent et ne cessent pas d'ailleurs de s'interpeller. Leurs itinéraires vont demeurer étroitement liés et on y reviendra, mais vous l'avez déjà entendu dans ce premier extrait, Simone de Beauvoir, quand elle parle de l'engagement, quand elle découvre l'engagement, elle le découvre avec ses relations amicales, mais aussi avec Sartre, quand elle décide finalement, en tant qu'intellectuelle, de résister à toutes les oppressions. Et on songe notamment à la fondation de la revue Les Temps Modernes, qui s'inscrit dans une philosophie de l'engagement. Le couple intellectuel par excellence au XXe siècle, c'est bien Sartre et Beauvoir. Voilà, une littérature engagée, une philosophie engagée, une évolution politique inséparable de entre Sartre et Beauvoir, l'un et l'autre socialiste, progressiste, en tout cas jusqu'en 1952, compagnon de route des communistes jusqu'en 1956, et engagés tous deux pour l'indépendance de l'Algérie, et vivement hostile, on le sait également, au gaullisme, très proche l'un comme l'autre des mouvements gauchistes, notamment après 1968. Et puis, j'y reviendrai dans la deuxième partie de l'émission, elle va cautionner évidemment de manière beaucoup plus, je dirais, ancrée, beaucoup plus spécifique, les mouvements féministes qui vont surgir à partir de 1970. Donc il y a cette rencontre-là, est absolument fondatrice et fondamentale. Je dirais une co-pensée. Alors Sartre disait à ce propos... je le cite. En fait, je n'ai vraiment parlé de mes théories à personne qu'à elle. Il dit de Simone de Beauvoir qu'elle était l'interlocuteur parfait. Son rôle dans l'œuvre de Sartre étant fondamental. Notamment pour sa sévérité, mais encore pour son soutien ou pour ses encouragements. Je vous invite à regarder les débats qu'on a pu filmer entre Sartre et Beauvoir, où ils se répondent l'un l'autre et où finalement elle a un rôle de stricte égalité avec Sartre et Sartre lui-même d'ailleurs qui l'a soutenu. Bon, alors ce petit détour par Sartre et la relation de Sartre et de Beauvoir, je vous renvoie au carnet de la drôle de guerre où Sartre écrit « Il n'y a que mes rapports avec le castor, donc Beaver, le constructeur en anglais, c'est le surnom de Simone de Beauvoir, qui échappe à l'absurdité de la mort parce qu'ils sont parfaits et à chaque instant tout ce qu'ils peuvent être. Je n'en attends rien sinon leur continuation indéfinie. » Phrase que je cite des carnets de la drôle de guerre de Sartre. Voilà, alors on va écouter à l'instant un second extrait. Alors toujours tiré de ses conférences à Bruxelles et de cet entretien donné dans la suite à la RTBF en 1961, Simone de Beauvoir.
Oui, en effet, à propos de vos promenades à pied, je voudrais souligner quelque chose. Je crois qu'un écrivain doit se doubler d'un artiste. Et à ce moment-là, le contact avec la réalité quotidienne, la petite réalité, comme on dit, n'est-il pas suffisant?
Ah, bien entendu, ça je suis tout à fait d'accord, et je pense même que ça serait alors rendre inutile l'art et la littérature si les deux activités, mettons activité politique et activité littéraire, devaient entièrement se recouper. D'ailleurs, je trouve que dans les livres même, puisque nous parlons de moi, je prends l'exemple que je viens d'écrire, j'en fais la preuve, parce qu'après tout, ma vie de jeune fille rangée ou d'adulte qui commence à prendre conscience, ce sont des toutes petites choses par rapport à l'ensemble du cours du monde. Pourtant, j'en ai parlé parce que j'ai pensé qu'une vérité individuelle, ça pouvait toujours servir. Et à l'intérieur de cela, j'ai parlé même de choses extrêmement petites, mettons comme des promenades à pied, et qui n'ont rien à voir avec l'ensemble de la condition humaine ou de l'avenir ou du présent de l'humanité en général. Là, je suis tout à fait d'accord, et j'admettrais même qu'on restreigne autant qu'on veut le travail romanesque, ou le poème, ou la nouvelle, ou même le roman.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Voilà, de retour sur l'antenne d'Aligre FM, on écoutait un second extrait 1961 à la RTBF dans la suite de la publication de La force de l'âge paru en 1960. C'est Simone de Beauvoir que vous écoutiez. On est toujours sur l'antenne d'Aligre FM et vous êtes à Philosophie au présent. Je termine un peu sur ce balayage, j'allais dire, de l'œuvre de Simone de Beauvoir. Bon, vous savez qu'elle commence à écrire dès les années 1930. Les premières nouvelles ne trouvent pas d'éditeur. Et elles furent publiées en 1979 seulement, et c'est le titre de l'ouvrage « Quand prime le spirituel ». Alors, je le disais à l'instant, Simone de Beauvoir a été sans doute l'une des femmes en France les plus influentes de son siècle, sur le plan des idées. Son œuvre est considérable, on pourrait alors commencer d'abord par la fiction. Pour Simone de Beauvoir, qu'est-ce que c'est que fictionner, c'est vouloir reprendre à son compte toute la richesse du monde pour le justifier, soit en tirant la portée universelle de son expérience singulière, soit en singularisant une connaissance universelle. Alors Simone de Beauvoir a, bon, je cite quelques ouvrages parce qu'on pourrait pas tout citer. En 1943, il y a L'Invité, ce magnifique roman, modèle du roman existentialiste, avec la relation triangulaire qui s'inspire de la relation qu'elle avait avec Sartre et avec Olga Kosasiewicz. Qui est un roman qui parle finalement de cette relation triangulaire et de l'affrontement irréductible des consciences dont chacune poursuit la mort de l'autre. Le sang des autres, en 1945, qui se passe dans la France occupée et qui montre les dilemmes auxquels font face les résistants. Alors là, on est dans la question éthique par excellence, la question de l'authenticité. Je cite « Être authentique, c'est réaliser pleinement son être en situation avec cette conscience de porter à l'existence plénière la situation d'une part et la réalité humaine d'autre part. » Alors là, je citais Jean-Paul Sartre, carnet de la drôle de guerre de 39 à 40. Donc dans ce sang des autres qui va lui apporter la célébrité et qui évoque ce grand concept de l'engagement, de l'attitude du créateur et du penseur qui s'inscrit dans le social, qui en prend conscience et qui prend part au débat. Là, c'est vraiment la Simone de Beauvoir qui réfléchit sur finalement ce qu'elle va elle-même mettre en acte notamment avec Jean-Paul Sartre. Il y a en 45 une pièce de théâtre, hein, Les bouches inutiles, là encore très intéressant, la question éthique est développée au Moyen-Âge, hein, des villes sont assiégées et sur les routes des enfants, des femmes et des vieillards meurent de faim. Bon, que faire face à une telle situation, hein, voilà, donc là il y a un travail chez Simone de Beauvoir sur comment atteindre une fin, hein, cette fin de la liberté, quels moyens. Et finalement, de Beauvoir poursuit, hein, ce travail de eh bien, être libre, c'est finalement agir sa liberté, c'est éviter la chosification. La chosification, ça signifie quoi? C'est-à-dire l'acceptation. Hein. Voilà, 46, tous les hommes sont mortels. Encore un autre ouvrage, et dont je passe, hein, l'homme, la question de l'homme immortel qui est protagoniste, la question de la finitude et de la mort. Voilà, qu'on reverra aussi dans d'autres moments de l'œuvre de Beauvoir, notamment dans son autobiographie. Et puis, il y a Les Mandarins, en 1954, hein, le plus ambitieux de ses romans, et qui va être couronné par le prix Goncourt, et qui propose une fresque, une vaste fresque de l'après-guerre, telle que le vécurent les intellectuels de gauche non communistes. Alors, si on poursuit et si on avance dans cette œuvre de Simone de Beauvoir, hein, je m'excuse déjà de passer tellement vite, mais simplement pour vous donner, j'espère en tout cas, l'envie de reparcourir cette œuvre, il y a aussi une dimension essayiste de Simone de Beauvoir, hein, et relativement à des questions éthiques que je viens d'évoquer à l'instant. Alors notamment, si on fait un micro-retour en arrière, en 1944, avec Pyrrhus et Cinéas, hein, la philosophe déploie l'idée d'une conquête, hein, du pouvoir, de l'expansion, voilà, comme étant finalement la figure du vide. Hein. En 47, pour une morale de l'ambiguïté qui tente d'articuler l'existentialisme et l'éthique. Donc il y a aussi cette dimension morale, hein, éthique en tout cas, si on considère que la morale n'est pas tout à fait l'éthique, hein, au sens où l'éthique c'est un dépassement, hein, c'est une réflexion sur précisément la morale sociale. Alors en tout cas, ce qui ressort dans ces essais et ces questions éthiques dans l'œuvre de Beauvoir, c'est la relation centrale à l'autre, hein. La relation qui n'est pas d'emblée posée comme conflictuelle, comme le montre le concept d'appel, alors qui est un concept qui est issu également de l'existentialisme athée tel que Sartre a pu le penser. Alors qu'est-ce que c'est que ce concept d'appel qui figure au centre même de l'œuvre de Beauvoir? C'est un rapport écrivain-lecteur, hein, où il y a une co-collaboration de l'auteur et du lecteur par l'écriture. Alors il s'agit, dans l'écriture, d'ouvrir l'horizon intersubjectif de la diversité, de la réciprocité. Dans l'écriture, c'est la reconnaissance d'autrui dans son altérité originaire et radicale. L'appel, finalement, hein, concevoir l'écriture, la pensée comme un appel, c'est reconnaître la diversité, hein, l'inscrire au cœur même de l'écriture. Donc Simone de Beauvoir est profondément autrice, philosophe, et pose dans ses ouvrages une morale existentielle. Cette morale existentielle ou cette éthique existentielle, elle s'oppose à toute idée de normativité. Hein. Voilà, et c'est vraiment à partir de cette compréhension de l'existence et de l'existentialisme, j'y reviendrai un petit peu plus tard, que Simone de Beauvoir réfléchit à ce qu'elle appelle une morale de l'ambiguïté, où elle pose finalement les bases d'une éthique qui va lier l'intersubjectivité et la liberté, hein, et où la notion de situation est signifiante et significative. Hein. Alors, qu'est-ce que c'est que la situation? L'idée de situation pour l'existentialisme, c'est vraiment l'idée d'une position, hein, c'est nous sommes toujours en situation, c'est-à-dire dans une interaction du pour-soi, c'est-à-dire de notre conscience, de nous-mêmes, et de l'en-soi, c'est-à-dire de ce qui finalement est figé et n'est que fixisme, hein, et qui peut effectivement aussi nous figer. Hein. Donc toute cette dimension des essais et des questions éthiques, notamment Pyrrhus et Cinéas ou Pour une morale de l'ambiguïté, commence à poser ce qui va être au cœur même de l'ouvrage du deuxième sexe. Alors, précisément pour faire cette transition, je vous propose un troisième extrait où on va écouter à l'instant Simone de Beauvoir.
Oui, vous avez donc un goût absolument certain pour la réalité quotidienne, pour la petite réalité, comme vous dites. Mais je voudrais savoir dès lors pourquoi vous avez voulu vous lancer dans une action politique. En effet, je crois que cette action politique peut être dangereuse pour un intellectuel qui a le souci de vérité. Le philosophe Merleau-Ponty a écrit dans son dernier ouvrage une phrase que je trouve assez significative. Il a dit « Le tout pour un intellectuel n'est pas d'être à la mesure de la vérité, n'est pas d'avoir raison, mais bien d'être à la mesure du grand trompeur, le grand trompeur qui est l'histoire. » Vous ne croyez pas que cette situation de l'intellectuel est dangereuse s'il a un souci de vérité ?
Vous me posez deux questions à la fois, en somme. La première, c'est pourquoi j'ai été amenée à prendre des positions d'ordre public, et l'autre, c'est comment je conçois ces positions. Pour la première, c'est extrêmement facile. Je trouve qu'au contraire, dans la mesure où j'avais le goût de la vie individuelle, comme ça se marque, mettons, dans mes promenades ou dans mes voyages, eh bien, c'était un goût de la vie en général. Et dès qu'on a le goût de la vie, on ne peut pas accepter de l'avoir diminué chez autrui. Je pense que c'est au contraire, parce que j'avais le goût de la vie, qu'il m'était insupportable de voir, mettons, des peuples opprimés ou dans la misère, comme il m'est arrivé d'en voir au cours de mes voyages. C'était quelque chose qui m'était insupportable. Il m'était insupportable de voir également des classes opprimées et où il est impossible d'arriver à ce qui faisait pour moi le goût et le sens de la vie. C'est, je crois, au contraire, parce que j'ai aimé la vie, que j'ai souhaité la vie avec ce que ça suppose de liberté et de possibilité pour tout le monde. Je crois qu'au contraire, une des raisons des engagements que j'ai pris par la suite, c'est la vitalité qu'il y avait chez moi. Que ce sont les gens inertes, ou plus ou moins endormis, ou douteux, ou qui s'accommodent le mieux de la misère des autres, parce qu'au fond, ils s'accommodent aussi de leur propre misère vitale. Alors là, je ne vois donc pas du tout de contradiction, je vois au contraire un passage presque nécessaire entre le goût de vivre chez quelqu'un, je ne parle pas seulement chez moi, et le goût de s'engager. Quant à la forme de cet engagement, alors là, en effet, il se pose un problème pour l'intellectuel qui est de maintenir à la fois les valeurs, les consignes proprement intellectuelles auxquelles il tient et un rapport critique, mettons par exemple, devant les choses et en même temps une certaine efficacité. Et il s'agit de rechercher l'efficacité sans sacrifier cependant. Il peut y avoir d'ailleurs des cas où on est amené à les sacrifier. Mais enfin, moi en tout cas, ce que j'ai cherché, et les amis qui m'entourent, c'est à faire cette conciliation entre une certaine efficacité, la plus grande possible, et malgré tout, le respect de valeurs proprement littéraires, artistiques, et de valeurs proprement intellectuelles.
Voilà, de retour sur l'antenne d'Aligre FM, on écoutait un troisième extrait de Simone de Beauvoir, voilà, qui dialoguait toujours dans sur la RTBF 1961. Alors on arrive petit à petit à ce deuxième moment de l'émission relativement au deuxième sexe. On a pu en tout cas montrer avec cette première partie toute la dimension philosophique, proprement philosophique, et notamment une philosophie morale dans l'œuvre de Simone de Beauvoir, où les concepts, par exemple d'ambiguïté, d'appel, de situation, d'intersubjectivité et de liberté sont mis en avant pour une pensée qui est véritablement existentialiste et morale. Effectivement, la question de l'ambiguïté, c'est très très important pour Simone de Beauvoir et ça relève véritablement d'une définition de notre humanité. L'être humain est caractérisé par cette ambiguïté de ce savoir mortel, pris dans la contingence. Rien ne justifie son existence et il est un être pour la mort, pourrait-on dire. Mais cette ambiguïté, que Simone de Beauvoir résume ainsi, tout mouvement vivant est un glissement vers la mort, cette ambiguïté se retourne en un sens de la vie, en un sens que l'on donne à sa vie. Si on accepte de transformer et de devenir créateur de son existence, transformer ce qui cherche à nous déterminer, et si finalement, on devient autrice, auteur, créatrice, créateur de sa propre existence. Donc, c'est un concept d'ambiguïté sur lequel j'étais un peu passée et qui est au centre de l'œuvre de Simone de Beauvoir. Alors, le deuxième sexe. Bon, nous avons choisi aujourd'hui de vous donner un petit peu quelques éléments de ce magnifique ouvrage, un ouvrage très difficile d'une femme philosophe. Voilà, il ne faut pas cacher que ça peut être une écriture très très délicate, mais on a choisi en tout cas aujourd'hui dans quelques morceaux, voilà, peut-être fort célèbres, qui disent quelque chose de ce féminisme de Simone de Beauvoir. Alors, le deuxième sexe, évidemment, s'inscrit dans une perspective existentialiste, hein, et la position de Simone de Beauvoir si dessine, hein, une position féministe. Voilà, Simone de Beauvoir, finalement, comme je le disais dans la première partie de l'émission, était une autrice, hein, jusqu'en 1949, en 1948, au moment où elle écrit cet ouvrage. Jusque-là, elle était relativement indifférente au problème d'un sexe qu'elle n'avait pas dramatiquement vécu, notamment dans sa famille, hein. Donc son ouvrage et la finalité de cet ouvrage va insister sur l'agir libre de la femme, alors qu'elle-même a connu cette liberté, hein. Et elle veut faire entendre une voix, hein, la voix d'une féministe, ou en tout cas d'une philosophe féministe, qui, en tout cas à laquelle va être attachée la notion de féminisme, sans qu'elle jusqu'à présent ne s'était nécessairement senti portée vers cela. Hein, il y a cette ambivalence dans l'écriture de cet ouvrage, et c'est par la suite, hein, d'ailleurs, que le féminisme de Simone de Beauvoir va être agissant, notamment pour accompagner le droit à l'avortement, à la contraception, etc.
Allègre FM 93.1.
Donc en 49, Simone de Beauvoir est une femme de gauche, hein, et elle compte encore beaucoup sur les régimes socialistes pour apporter une solution économique au problème des rapports de sexe. Mais ses visites en URSS notamment, ou en Chine, vont la décevoir sur ce point. Et à partir de 1960, hein, et notamment autour, après la publication de son ouvrage en 1949 et du renouveau du néo-féminisme américain, Simone de Beauvoir va s'engager dans un féminisme plus radical, bien qu'elle maintienne les grandes lignes de son écrit. Donc on voit bien que son écrit est en même temps une utopie, peut-être, que les régimes socialistes vont pouvoir changer les rapports hommes-femmes, mais à la suite de ces publications, de cette publication et des visites qu'elle fait dans les pays socialistes, elle se rendra compte que finalement le seul moyen d'essayer de transformer les rapports de sexe, c'est l'action. Alors, pour évoquer les réactions à cet ouvrage, hein, il a été un succès de librairie en France. 22 000 exemplaires se sont vendus en une semaine. Mais ça a été un succès de scandale, hein, et on sait, les injures, les lettres, les incompréhensions dont Simone de Beauvoir a fait l'objet, notamment celle célèbre de François Mauriac ou de Camus, hein, qui, ce dernier, reprocha à l'auteur d'avoir ridiculisé le mal français. Donc ça avait été une blessure, hein, Camus étant un ami, hein, du couple Beauvoir-Sartre. Et puis, les prises de position de Beauvoir dans cet ouvrage ont été stigmatisées à gauche et comme à droite, hein. Rome mit cet ouvrage à l'index. Les marxistes disaient qu'une fois la révolution accomplie, le problème de la femme ne se poserait plus. Or, en vérité, ce que va constater Simone de Beauvoir et ce que constate déjà Simone de Beauvoir dans cet ouvrage, c'est que le pouvoir mâle n'est pas prêt à se remettre en cause. Donc, grande affectation de Simone de Beauvoir, hein, qui a été particulièrement touchée par la vulgarité des attaques faites à son ouvrage. Alors, peut-être on pourrait écouter un premier extrait où Simone de Beauvoir évoque, alors premier extrait relativement au deuxième sexe, où Simone de Beauvoir revient sur cet ouvrage.
Votre public ici à Bruxelles lors de vos conférences était essentiellement féminin et je voudrais savoir si, arrivé dans la force de l'âge, vous avez encore toujours la même position que celle que vous aviez en écrivant Le deuxième sexe.
J'ai exactement les mêmes idées. Et j'ai constaté en fait pendant ces 10 années, car cela fait à peu près maintenant 10 ans que j'ai écrit le livre, même un petit peu plus, que la situation de la femme était bien telle que je l'avais décrite. Et elle n'a pas changé pour la bonne raison qu'elle ne peut changer que le jour où la société changerait d'une manière profonde. Tant que la société reste ce qu'elle est, la femme garde exactement dans la société la même place qu'elle avait avant. Et du coup, elle est déchirée exactement par les mêmes conflits, par les mêmes contradictions. Peut-être même un peu plus qu'avant, parce que peut-être elle a fait une prise de conscience un peu plus nette. Et en fait, enfin, j'ai examiné pas mal de livres et d'articles parus ces derniers temps, et surtout statistiques, sur ce que les femmes ont pu acquérir ou conquérir pendant ces 15 dernières années. Eh bien, ça n'est pratiquement rien, parce qu'il y a peut-être un peu plus de femmes qui travaillent qu'avant, mais elles restent toujours cantonnées dans des stades très inférieurs. Ce n'est quand même qu'une minorité de femmes qui travaillent, et il y a toujours pour elles ce terrible dilemme de savoir qu'elles doivent choisir entre être femme au foyer, mère, etc., ou travailler dehors, et celles qui concilient les deux n'arrivent qu'à cause de, à grâce plutôt, à de terribles acrobaties. Et en fait, moi je ne vois de vraie solution au problème féminin que le jour où il y aurait du travail pour tous, et où le travail serait donc devenu quelque chose qui va de soi pour la femme comme pour l'homme. Mais comme nous sommes encore très loin d'un stade où l'économie serait assez harmonieuse, serait assez en progrès pour qu'il y ait vraiment un plein emploi de toutes les ressources humaines sur Terre, je crois que nous sommes très loin également de la solution du problème de la femme qui est avant tout, à mes yeux, un problème d'ordre économique.
Oui, un problème d'ordre économique, justement. Je pense là que c'est plutôt l'histoire de nouveau qui va imposer son déroulement. Je me demande jusqu'à quel point on peut mener une action dans ce sens-là.
On ne peut emmener aucune directement pour les femmes. On peut emmener pour le socialisme, par exemple. On peut emmener sur un plan beaucoup plus vaste. Et c'est pour cela que ça m'agace un peu comme quand on me cantonne, comme vous me le disiez vous-même tout à l'heure, dans les problèmes féminins. Parce que, ayant fait le bilan de ces problèmes féminins, je ne m'intéresse plus à aucun problème féminin en particulier. Ou enfin, si, sur quelques points de détail, il y a encore des combats à mener. Parce que malgré tout, il y a tellement de malheurs dans la condition féminine qu'on peut lutter sur certains points particuliers. Je pense par exemple au birth control. Je trouve qu'il serait très utile que tous les pays adoptent le birth control et je fais campagne dans la mesure où je peux en ce sens. Mais enfin, ce sont des points secondaires. Et pour ce qui est vraiment l'essentiel de l'émancipation de la femme, qui ne peut se faire que par le travail, ça ne peut s'obtenir qu'en luttant pour une transformation radicale des structures de la société.
Voilà, de retour sur l'antenne d'Aligre FM, vous écoutiez Simone de Beauvoir à propos du deuxième sexe. Je parlais à l'instant des outrages que Simone de Beauvoir a subis à la sortie de cet ouvrage. Je la cite dans La force des choses. « Chez les peuples latins, le catholicisme a encouragé la tyrannie masculine et l'a même incliné vers le sadisme. Mais si elle s'allie chez les Italiens à de la mufflerie, chez les Espagnols à de l'arrogance, la chiennerie est proprement française. C'est la vieille grivoiserie reprise par des mâles vulnérables et rancuneux. » Voilà, donc dans la force des choses. Oui, je notais c'est tout ce que de Beauvoir a subi comme injure à la sortie de cet ouvrage. Et l'application qu'elle a mise a réfuté ce qu'on lui reprochait. Et elle a corrigé toutes les erreurs qui étaient commises sur son compte. On a vu en elle une femme frustrée et aigrie. Évidemment, elle s'est justifiée en répondant qu'elle n'a jamais eu à souffrir d'être née femme, que son entourage l'avait reconnue comme un être humain à part entière. On lui a reproché d'être misogyne. Elle répliqua « Je ne les exalte pas, les femmes, et j'ai décrit les défauts qu'engendrent leurs conditions, mais j'ai montré aussi leurs qualités et leurs mérites. » On lui reprocha de parler aussi du rôle de la mère sans l'avoir connue, mais elle répondit que les hommes n'étaient pas mieux placés qu'elle pour en parler. On l'accusa de prêcher la licence sexuelle, alors que pour elle, elle indiquait simplement que, je la cite, « les choix, les consentements, les refus ne doivent pas obéir à des institutions, des conventions, des intérêts. » Bon, on pourrait aussi citer toute l'influence de cet ouvrage du deuxième sexe et les défenseurs en France et à l'étranger, en premier lieu vieux Jean-Paul Sartre, mais aussi Francis Janson, Michel Léris, Maurice Nadeau, Emmanuel Mounier, Jean-Marie Domenac, Colette Audry, voilà, qui ont salué la nouveauté, la profondeur de vue de Simone de Beauvoir. Et ce sont surtout, hein, je le disais auparavant, les femmes elles-mêmes que l'auteur fut heureuse d'avoir convaincue. Elle raconte qu'elle a reçu un abondant courrier, hein, dont elle dit dans ses mémoires qu'il ne tarit jamais. Beaucoup de femmes ont puisé dans son livre la force de lutter, car elles y ont trouvé l'expression d'une vérité, de leur vérité. Bon, je citais il y a quelques minutes, hein, en 1953, le deuxième sexe paraît en Amérique, et avec un succès que Simone de Beauvoir d'ailleurs relève dans La force des choses. L'ouvrage va être en effet vendu à 1 million d'exemplaires, et il va ouvrir une voie aux Américaines, des voies nouvelles, hein, qui vont nourrir la réflexion de ces femmes, de ces théoriciennes, notamment du Woman's Lib, hein, Sulamith Firestone, Tigress Atkinson, Juliette Mitchell, Kate Millett, Germaine Greer, etc. Donc, voilà, je tenais un petit peu à souligner aussi dans quoi a été pris cet ouvrage. Et je voudrais peut-être vous faire lire, en tout cas essayer de partager avec vous aujourd'hui, même si c'est de manière beaucoup trop succincte, quelques extraits de ce deuxième sexe. Alors, je me permets de lire. « On ne naît pas femme, on le devient. Aucun destin biologique, psychique, économique ne définit la figure que revêt au sein de la société la femelle humaine. C'est l'ensemble de la civilisation qui élabore ce produit intermédiaire entre le mâle et le castrat, qu'on qualifie de féminin. Seule la médiation d'autrui peut constituer un individu comme un autre. En tant qu'il existe pour soi, l'enfant ne saurait se saisir comme sexuellement différencié. » Alors, quelques petites lignes de cet extrait du deuxième sexe où on peut être interpellé par cette expression de femelle humaine qui est très intéressant en tant qu'il relève finalement d'une position idéologique de la société française de cette époque. Hein. Femelle, ça vient du latin femina, hein, ou de femen, qui veut dire la cuisse. Et qui va finalement signifier ce femen, la femelle, puis la femme et l'épouse. Donc ça dit déjà quelque chose de la manière dont on considère la femme, davantage comme femelle, hein, comme celle qui, entre ses cuisses, est l'objet finalement d'un désir et va produire l'enfantement, le renouvellement de la société. Et c'est aussi ce qu'elle décrit hein, comme étant un produit entre le mâle et le castrat. Là encore, c'est vraiment un langage, alors d'abord qui est un langage médical, hein, pour décrire la femme, hein, un langage nosographique, hein, où la femme finalement aurait un défaut de virilité, il y aurait une forme d'arrêt dans le développement, hein, entre le mâle et le castrat. Donc toujours ce produit de l'entre-deux, cette non-place finalement, de la femme. La relation également, hein, à autrui, qui est très importante dans cet extrême et qu'on va retrouver aussi quand Simone de Beauvoir travaille l'inscription, le déterminisme, l'essentialisation de la fille et du garçon. Hein. La question d'autrui dans la construction de la femme, qui est construite comme autre, avec un A majuscule. Hein. Autre, c'est quoi ? C'est qui n'est pas le même, qui est distinct, qui est différent, qui est étranger et qui est ailleurs. Hein. Donc, c'est pas autrui, hein, dans le sens où autrui, c'est le différent, c'est l'altérité, c'est l'autre que moi, et l'autre que moi, c'est aussi un alter ego, hein, c'est un autre moi. C'est pas dans ce sens-là, finalement, qu'est vue la femme, mais elle est vue comme un grand autre. Alors, je vous propose d'écouter un autre extrait de Simone de Beauvoir, et on revient avec un autre petit passage du deuxième sexe.
Je pense que dans l'ensemble, ça ne va pas bien du tout pour les femmes aujourd'hui. Je pense que ça va même moins bien qu'au moment où j'écrivais Le Deuxième Sexe. Parce que quand j'écrivais Le Deuxième Sexe, j'avais un vif espoir que la condition des femmes allait profondément changer. C'est ce que je dis d'ailleurs à la fin du livre, je dis que j'espère que ce livre sera un jour périmé. Et malheureusement, il ne l'est pas du tout. C'est-à-dire qu'on dit beaucoup qu'il l'est, mais pour des raisons inverses. C'est-à-dire qu'on dit beaucoup aujourd'hui en France, et c'est un peu la même chose dans beaucoup de pays, que le féminisme s'est périmé, que le féminisme s'est démodé. Et moi, je n'en crois absolument rien. Enfin, vous savez quelles sont mes idées sur la condition des femmes. C'est que pour les femmes, ce qu'il y a à atteindre, c'est une émancipation totale, radicale, qui fasse d'elles réellement les égales des hommes à part entière, et que cette émancipation ne peut s'obtenir que par le travail. Il faut que les femmes travaillent exactement d'une manière aussi universelle, que ça soit aussi normal pour elles que pour les hommes, pour que sur les plans intellectuels, psychologiques, moraux, elles puissent également se sentir profondément et de l'intérieur les égales des hommes. Bon, et pour qu'elles puissent le devenir et avoir des responsabilités économiques, politiques, sociales qui soient équivalentes. Or, en ce moment, il y a en France un mouvement que j'appellerais un mouvement de régression parce qu'il vise, au contraire, à enfermer de plus en plus la femme au foyer, dans sa famille, auprès de ses enfants et à lui refuser les possibilités de faire une carrière de travailleuse équivalente à celle des hommes.
Mais comment expliquez-vous cette régression actuelle dont vous parlez ?
Ça, je l'explique pour une raison très simple. C'est que nous sommes dans une démocratie bourgeoise. Mais des démocraties bourgeoises, ce sont en vérité des pays qui sont gouvernés par une classe dominante qui est la bourgeoisie. Et cette classe dominante qui est la bourgeoisie, eh bien, à ce moment-là, elle veut garder le pouvoir. Et une des manières dont elle va garder le pouvoir, c'est précisément de garder la femme au foyer. Ça pour des tas de raisons. Parce que la classe bourgeoise a intérêt au statu quo, donc elle a intérêt à ce que les gens soient dépolitisés. Empêcher les femmes de travailler, les empêcher de se mêler à la vie publique, c'est avoir tout un public votant et à la fois dépolitisé, qui par conséquent va être là à voter pour le pouvoir personnel, pour De Gaulle, pour l'apolitisme. Et en même temps, si la femme est dépolitisée, elle dépolitise l'homme. Ça c'est très important que toujours l'émancipation de la femme a été liée à l'émancipation sociale. Quand en Amérique, il y a eu un grand mouvement contre la ségrégation au 19e siècle, du même coup, il y a eu un grand mouvement féministe. Les deux se soutenaient. Eh bien, si la femme est dépolitisée, elle dépolitise l'homme. C'est très sensible en France, parce qu'elle le garde lui aussi à la maison, regarde ensemble la télévision. Et de cette manière-là, en empêchant la femme de se politiser, on empêche aussi l'homme d'être politisé. Et on empêche la femme d'être politisée si on l'empêche de travailler. Parce que la vraie politique, ce n'est pas le bulletin de vote qui sert au contraire à maintenir la dépolitisation. Parce qu'on votera pour, mettons, le pouvoir personnel. C'est la participation à des syndicats, à des groupes de pression. C'est par le travail seulement, par la vie économique, qu'un individu peut s'intégrer à la vie sociale. Alors on maintient la femme loin de la vie économique, à la maison, donc on la maintient loin de la vie politique. Si vous voulez, je crois que c'est une des raisons très fortes pour lesquelles il y a tout ce mouvement contre l'émancipation féminine.
Voilà, de retour sur l'antenne d'Aligre FM, philosophie au présent. Vous écoutiez à l'instant Simone de Beauvoir. On ne naît pas femme, on le devient. Je citais à l'instant quelques lignes de cet ouvrage. Le travail de Simone de Beauvoir est bien de montrer que finalement la femme, mais la fille, hein, le garçon, mais en tout cas la femme ici, a à subir l'intervention d'autrui et cela commence dès l'enfance. Hein. Une manière, dit-on en philosophie, d'essentialiser. De poser à la femme une détermination, une définition qui va lui imposer une fonction dans la société. Simone de Beauvoir va remettre en question l'idée du destin, en cela elle est existentialiste, hein, le destin de la femme, un destin qui n'est pas du tout hasardeux, mais un destin qui est construit, qui est le produit d'une éducation qui essentialise le biologique. Hein, comme s'il y avait une femme, la femme, hein, elle travaille beaucoup la question de l'éternel féminin, et elle montre finalement que cet éternel féminin n'a rien d'éternel, il est une production sociale, et là on vient d'écouter à quel point cette production sociale, c'est finalement la société capitaliste qui en a besoin. Alors, il y a tout un travail dans cet ouvrage, je le disais, sur une identification de l'essentialisation propre à la petite fille, mais aussi au petit garçon. Je lis. C'est ici que les petites filles vont d'abord apparaître comme privilégiées. Un second sevrage, moins brutal, plus lent que le premier, soustrait le corps de la mère aux étreintes de l'enfant. Mais c'est aux garçons, surtout, qu'on refuse peu à peu baisers et caresses. Quant à la fillette, on continue à la cajoler. On lui permet de vivre dans les jupes de sa mère. Le père la prend sur ses genoux et flatte ses cheveux. On l'habille avec des robes douces comme des baisers. On est indulgent à ses larmes et à ses caprices. On la coiffe avec soin. On s'amuse de ses mines et de ses coquetteries. Des contacts charnels et des regards complaisants la protège contre l'angoisse de la solitude. Au petit garçon, au contraire, on va interdire même la coquetterie. Ses manœuvres de séduction, ses comédies agacent. Un homme ne demande pas qu'on l'embrasse, un homme ne se regarde pas dans les glaces, un homme ne pleure pas, lui dit-on. On veut qu'il soit un petit homme, c'est en s'affranchissant des adultes qu'il obtiendra leur suffrage. Il plaira en ne paraissant pas chercher à plaire. Voilà, c'est vraiment cette construction que je vous ai fait entendre, hein, une construction que l'on dit une essentialiste, hein, une essentialisation qui commence d'emblée dans la famille et qui en fait montre une chose, c'est que nous sommes éduqués à être femmes, c'est-à-dire à avoir une fonction ou à être garçon. Hein. Je cite encore Simone de Beauvoir, en vérité, l'influence de l'éducation et de l'entourage est ici immense. Tous les enfants essaient de compenser la séparation du sevrage par des conduites de séduction et de parade. On oblige le garçon à dépasser ce stade, on le délivre de son narcissisme en le fixant sur son pénis. Tandis que la fillette est confirmée dans cette tendance à se faire objet qui est commune à tous les enfants. Donc, on voit bien, hein, alors c'est intéressant, il faudrait là presque faire une étude de texte, hein. La petite fille, du côté de la petite fille, il y a les verbes cajoler, hein, elle est l'objet d'admiration, elle est donc objectivée, objectivable, elle est un objet, hein, elle n'est pas du côté du pour soi, hein, un vocabulaire sartrio-beauvoirien, beauvoiro-sartrien de la liberté, le pour soi, elle n'est pas pour elle-même, elle est d'abord pour l'autre, elle est prise sous le regard de l'autre, hein, elle est aliéné, objet d'admiration. Et puis on la touche, le droit à la toucher. Hein. Voilà, c'est finalement l'opposé, hein, du petit garçon qui lui est, je le disais à l'instant, dans le pour-soi, qui va pouvoir se saisir du monde. On voit, on verra, on voit en tout cas dans la suite de l'ouvrage à quel point c'est y compris la psyché, hein, qui complètement subit les assauts de l'éducation, une psyché qui fait que la petite fille, voilà, a le droit de pleurer, peut se cacher un peu dans les jupes, à qui on permet les sentiments, l'expression de ses sentiments, etc. Et au contraire, le garçon qui est poussé vers la virilité, on rappelle que virilité ne veut pas dire qui détermine le masculin, mais tout simplement puissance. Voilà, alors malheureusement le temps tourne et je voudrais qu'on se quitte tout de même en écoutant encore la voix de Simone de Beauvoir. Voilà, en tout cas, ce très grand ouvrage qu'il faudrait relire et qui montre les premiers pas d'un féminisme qui en reste peut-être encore à la théorie et qui, par l'influence qu'il va avoir notamment aux États-Unis, va revenir en France et permettre à Simone de Beauvoir de s'engager avec ses amis dans tout ce qui fait aujourd'hui que, on espère, la femme ne soit plus essentialisée. Alors je vais vous laisser sur ce dernier extrait de Simone de Beauvoir qui parle du deuxième sexe et je vous dis à très bientôt sur Aligre FM dans Philosophie au présent et je remercie Armand Gury à la technique.
Et ajoutons aussi que une société bourgeoise naturellement veut maintenir en même temps que ses infrastructures, ses superstructures, c'est-à-dire sa morale et son éthique, et que parmi les valeurs de la bourgeoisie française, il y a essentiellement toutes les valeurs de la féminité, de la maternité, de la vie d'intérieur, de la vie de foyer, etc., etc. Alors notre bourgeoisie moderne et technocratique conserve sur ce plan-là toutes les valeurs de l'ancienne bourgeoisie. Il n'y a là-dessus pas de changement. On a pu espérer un changement parce qu'on a eu besoin un peu que les femmes travaillent après la guerre de 14-18, il y a eu, c'est à ce moment-là qu'il y a eu vraiment une promotion de la femme. En 45, on a pensé qu'il allait en avoir une autre et que la femme allait vraiment s'émanciper. Et puis les conditions économiques sont telles que finalement, il y a du travail, c'est aussi peut-être la première réponse que j'aurais dû vous donner, il y a du travail finalement pour 26% de femmes et pas pour davantage. Et du moment qu'on ne peut pas prendre les places aux hommes pour les donner aux femmes, du moment qu'il n'y a pas de place pour les femmes, eh bien, il faut faire une chose, alors, les décourager, les dégoûter du fait de travailler. On les décourage de travailler parce qu'on n'a pas de travail à leur donner, en gros, c'est ça. Si on avait besoin de travail parce que, par exemple, la société serait différente et qu'il y aurait des possibilités économiques beaucoup plus riches ou une autre distribution du travail, à ce moment-là, on leur créerait une autre idéologie et on les persuaderait, au contraire, qu'une femme est d'autant plus féminine, d'autant plus attirante, d'autant plus intéressante, etc., qu'elle travaille.
Il y a des femmes et beaucoup d'hommes qui disent qu'une expérience capitale vous a manqué, celle de la maternité, et que sur ce point vous êtes mutilée, et selon eux cette mutilation disqualifierait tous vos propos et toutes vos thèses.
Oui, je trouve ça complètement absurde. En effet, je connais cela, parce que si j'avais voulu écrire un livre sur la maternité vue de l'intérieur et senti de l'intérieur, bien entendu, on aurait pu me faire ce reproche. D'ailleurs, ça serait un propos absurde et je ne l'ai pas tenté. Mais quand j'écris Le deuxième sexe, je fais un travail de sociologue, d'anthropologue, et je parle du dehors, de conditions qui sont tout à fait différentes de la mienne. Je parle aussi bien des prostituées que des mères, que de la femme à travers les âges. Et par conséquent, ce reproche n'a absolument aucun sens. Que je sois mère, que je ne le sois pas, ce que j'ai à dire sur les femmes en général n'est pas du tout lié à mon expérience personnelle. À ce compte-là, alors la sociologie serait impossible, parce que si vous n'êtes pas vous-même un corbeau, vous ne pouvez pas écrire un livre sur les corbeaux. Toute la sociologie est au contraire basée sur une certaine distance entre la société que vous étudiez, la condition que vous étudiez, et puis vous-même. Pour le reste, alors, parler de mutilation, je trouve ça également complètement absurde, parce que ça serait supposer qu'il y a un être de la femme naturel donné en soi, alors qu'en réalité, il y a 50, 10 000 manières de vivre sa condition de femme, comme il y en a de vivre la condition d'homme, et qu'aucune n'est mutilante. Il n'y a de mutilation que si vous avez souhaité quelque chose et que vous ne l'avez pas, mais si vous ne le souhaitez pas et que vous ne l'avez pas, il n'y a pas de mutilation. Parce qu'un manque n'est jamais un manque en soi, il y a de manque que lorsqu'il y a un désir inassouvi. Du moment que je n'ai pas eu un désir d'enfant, ne pas avoir d'enfant n'est pas une mutilation. C'est-à-dire on voit bien là le préjugé contre la femme, parce qu'un homme qui n'a pas d'enfant ne dira jamais qu'il lui manque d'être père pour connaître la condition humaine et qu'il est mutilé.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.